Je fais aussi une belle rencontre devant moi. J'ai Jonathan Pratt, qui est directeur du regroupement québécois des maladies orphelines. Et avant de parler justement de Céline et du syndrome de la personne raide, parlez-nous du regroupement, parce que vous disiez hors onde que Canal M n'était pas très connu, mais le regroupement, l'est-il beaucoup plus?
Bien, en fait,
on devrait faire une association, peut-être?
Oui, peut-être, effectivement. C'est une bonne question. En fait, le Regroupement québécois des maladies orphelines a été fondé le 28 février 2010, donc à l'occasion de la Journée internationale des maladies rares, donc pendant l'année 2010. Donc, ça fait 14 ans qu'on existe. Ça a été fondé à Sherbrooke par une conseillère en génétique du nom de Gail Ouellette. Et puis, elle avait remarqué, en fait, là, que dans le système de santé, comme on le connaît actuellement, il y a beaucoup de gens, en fait, qui ont de la difficulté, puis notamment les personnes qui sont atteintes des maladies rares. Donc, ils ont moins de services et ça devenait difficile, justement, de les servir. Donc, elle, ce qu'elle a pensé, c'est de dire, bien, on va créer une entité pour, justement, travailler de concert avec le système de la santé pour, du moins, informer et soutenir ces personnes-là. Donc, s'assurer d'aller chercher l'information, qu'elle soit, évidemment, au Québec, au Canada ou même à travers le monde. On a des collaborations en Europe, en Australie, un petit peu partout. Puis, le but, c'est justement de fournir à ces personnes-là toute l'information sur la maladie. Donc, s'il y a des registres de patients qui existent, s'il y a des essais cliniques en cours, s'il y a des médicaments en évaluation, s'il y a des thérapies, etc., etc. Donc, le but, c'est que ces personnes-là arrivent avec leur équipe de soins après, leur médecin traitant et tout ça, et puissent discuter de ces informations-là. Et on continue encore de travailler pour expandre et se faire connaître encore plus. Effectivement, on a encore beaucoup de chemin à faire, mais c'est en parlant justement des maladies orphelines de plus en plus qu'on va être en mesure justement de se positionner, parce que notre but, effectivement, c'est on s'appelle le regroupement québécois. Mm-hmm. Donc, on est à travers le Québec, puis c'est pour ça, d'ailleurs, que j'invite tout le monde à regarder le www.rqmo.org, qui est notre site web, puis on est présent sur les réseaux sociaux, on a plus de 15 000 personnes qui nous suivent, mais c'est ça, donc il ne faut pas oublier, on estime à 700 000 Québécois là, qui seraient touchés par les maladies rares, donc ça fait beaucoup de gens, puis on veut justement là, aller rejoindre ces personnes-là.
Est-ce qu'on parle d'un guichet unique? D'après ce que vous me décrivez, c'est comme l'entonnoir, les gens vont vers vous et vous allez vers le système de santé, ou vous les dirigez vers la bonne porte du système de santé.
Exactement. Donc nous, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne la personne pour fournir le maximum d'informations et de ressources disponibles. Donc ce que ça veut dire, c'est que, par exemple, si on habite dans les Laurentides, la personne, tout dépendamment ses besoins et sa question, bon, on va chercher de l'information sur le transport, on va chercher de l'information sur le soutien financier par rapport à la maladie. Est-ce qu'il y a de la recherche qui se fait? Est-ce qu'il y a des projets de recherche en cours? Donc, tout ce qui va permettre justement à la personne de s'impliquer pour sa maladie, mais aussi de savoir vraiment, d'être à jour, si je peux dire, dans la maladie. Donc, on n'est pas, je tiens à le préciser, on n'est pas des professionnels de la santé. On a des spécialistes, en fait, qui ont des différentes expertises en santé publique, en travail social, on a toutes sortes de personnes dans l'équipe. Puis, le but, c'est vraiment, comme je disais, de complémenter le système de santé. Donc, là où est-ce que les professionnels de la santé n'ont pas le temps de donner, justement, l'inventaire des ressources et de l'information,
ce genre d'information.
Nous, on le fait pour les personnes atteintes de maladies rares.
Depuis qu'on se parle, vous avez utilisé le vocable maladie rare et maladie orpheline.
Oui.
Et on entend souvent, indépendamment, l'usage de l'un et de l'autre. Et je sais, pour une raison bizarre, il y a une différence.
Oui, bien, en fait, par définition, en fait, on va commencer avec ça. Donc, une maladie rare, par définition, mm-hmm. c'est une maladie qui touche une personne sur 2000 et moins au niveau de la prévalence. Il y a des définitions qui diffèrent. Là, aux États-Unis, entre autres, on utilise 5 personnes sur 10 000, mais ça, on revient au ratio. Ça revient à une personne sur 2 000 toujours. Et ça, c'est la définition peut réduire. Il existe dans la littérature, on parle entre 7 000 et 8 000 maladies rares qui seraient répertoriées, mais évidemment, avec le développement de l'intelligence artificielle, la recherche et tout ça, on va pouvoir en découvrir beaucoup plus. Il y a des maladies présentement que le seul nom, c'est la modification du gène ou l'endroit, là. Que la modification, elle est dans le génome. Puis on sait que 70 à 80 % des maladies rares sont d'origine génétique. Donc, ce chiffre-là risque d'être gonflé dans les prochaines années.
Donc, une maladie rare, c'est rare.
C'est rare, effectivement. Donc, c'est une personne sur 2000 et moins. Et le terme maladie orpheline, oui. C'est pour ça que les maladies rares rentrent beaucoup dans les maladies orphelines, c'est qu'une maladie orpheline, par définition, c'est une maladie pour laquelle, ça le dit, c'est orphelin. Donc, quand on est orphelin, on n'a pas de soutien, on est laissé à nous-mêmes. Donc, ce que ça veut dire pour la maladie comme telle, c'est que il n'y a pas de traitement qui existe, il n'y a pas de recherche beaucoup qui est fait là-dessus, il n'y a pas de financement pour développer des projets de recherche. Il n'y a personne, en fait, qui s'occupe de ces maladies-là. Et c'est quand même un drôle d'addon qu'on parle justement du syndrome de la personne raide aujourd'hui, parce que le syndrome de la personne raide, présentement, il n'y a pas de traitement. Il n'y a pas beaucoup de recherche qui est faite là-dessus. Il n'y a pas beaucoup de financement. D'ailleurs, j'étais très surpris, puis je vous l'apprends peut-être, à moins que vous l'avez vu, mais suite au documentaire de Céline la semaine dernière, Céline a annoncé qu'elle avait fait un don de 2 millions de dollars à un chercheur, un neurologue de l'Université du Colorado pour entamer justement des projets de recherche là, sur le syndrome de la personne raide. Donc, c'est de vous dire à quel point il manque de financement pour cette maladie-là. On parle d'une maladie qui, en fait, toucherait une personne sur 1 million. Donc, c'est ultra rare. Mm-hmm. Évidemment, il y a certaines régions. Ici, au Québec, je vous dirais qu'on est plus à une personne sur 100 000. Donc, ça semble être quand même prédominant. Puis j'ai entendu récemment, dans une autre entrevue, que ça touchait plus les personnes d'origine française. Donc, les personnes qui ont des origines plutôt de la France européenne seraient plus atteintes. Donc, c'est ça vraiment la distinction entre les deux. Maladie rare, une personne sur 2000 et moins. Et maladie orpheline, c'est vraiment toutes les maladies. En fait, il y a des cancers qui rentrent là-dedans aussi. Des cancers plutôt rares, qu'il n'y a pas beaucoup de recherche, qu'il n'y a pas de traitement. C'est des maladies pour lesquelles il n'y a pas vraiment d'attention qui sont données dessus.
La raison pourquoi je connaissais un petit peu la distinction, c'est que je m'intéresse, bon, je fais du vélo, puis il y a Pierre Lavoie qui a lancé son marathon, son 1000 km.
Oui.
Au début, c'est parce que lui-même a perdu des enfants.
Deux
enfants par des maladies orphelines.
Oui, bien en fait, effectivement, Pierre Lavoie, c'est un des grands ambassadeurs des maladies rares et des maladies orphelines. Évidemment, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, je dirais que 97,8% de la population, ou même c'est proche du 100%, mais il y a beaucoup de gens au Saguenay qui sont très conscientisés par ces maladies-là parce que la plupart sont porteurs, justement, de maladies. Il y a des maladies aussi à effet fondateur, comme l'acidose lactique. C'est ça, justement.
Oui, c'était celle-là. Hein?
C'est celle-là que ces deux de ces quatre enfants sont décédés, malheureusement, en très bas âge, parce qu'on ne connaît pas vraiment la maladie, on ne connaît pas la cause. Et même à ce jour, il y a des projets de recherche qui sont là-dessus à l'Université McGill par la docteure Claude Bérère. Mais il y a un manque. Il y a un manque à ce niveau-là. Donc oui, effectivement, lui s'occupe justement de propager. Donc oui, il y a les saines habitudes de vie d'un côté, mais il y a aussi les maladies orphelines pour justement il n'y a personne qui soit laissé derrière finalement.
Si je comprends bien, puis là je reviens à Céline Dion, si on veut qu'une maladie rare et même orpheline devienne un peu plus sous les projecteurs, ça prend un porte-parole ou une porte-parole. Et là, on en a toute une. Ben, à tout le moins, du Québec, des États-Unis, puis même un peu partout dans le monde.
Oui, bien, c'est ça qui est un peu malheureux. Donc, d'un côté, c'est sûr que nous, quand on a vu la sortie du documentaire, puis moi aussi, je l'ai vu, on a même une communauté du RQMO. Donc, quand il n'y a pas d'association qui existe, soit au Québec ou au Canada, une association de patients, quand il y a beaucoup de gens qui nous demandent, on va créer ce qu'on appelle une communauté rare du RQMO. Donc, c'est un peu une mini-association de patients sous le chapeau du RQMO.
Une association dans l'association.
Exactement. C'est exactement ça. Donc, et on en a une pour le syndrome de la personne raide, justement. C'est une dizaine de femmes qui sont atteintes de la maladie, qui font partie de la communauté. Puis l'échange qu'on a eu récemment, c'est que, tu sais, oui, c'est très bien. C'est très bien qu'une personnalité publique comme Céline Dion mette de l'avant, justement, puis on le voit dans le documentaire pour ceux qui ne l'ont pas vu, ou ceux qui n'ont pas accès à Prime ou peu importe les raisons, on la voit en crise, avec son équipe de soins, c'est sûr que ça fait peur, puis on la voit pleurer, on la voit, c'est vraiment en direct. Et ce qui est, je répète le mot malheureux pour une troisième fois, mais ce qui est malheureux pour les personnes qui vivent cette situation-là, c'est qu'ils n'ont pas la chance que Céline a, malheureusement.
Ils n'ont pas les moyens.
Exactement. Fait que c'est comme un couteau à double tranchant, là. Donc, oui, ils sont très contents qu'on parle de la maladie. Fait qu'on la met de l'avant, puis ça en prend. Ça prend des gens, justement. Pierre Lavoie, c'est un autre grand ambassadeur au Québec. Puis, mais c'est quand même malheureux qu'on attende d'avoir ces personnalités publiques-là sortir et éclater au grand jour, justement, tous les enjeux qui vivent. Puis en plus de ça, ben, on parle du fardeau financier. Là.
Oui, oui, oui.
Monsieur, madame, tout le monde, comme vous et moi, qui sont atteintes de ces maladies-là, ils n'ont pas nécessairement là, l'équipe de soins et l'argent aussi pour payer. On parle là, des traitements de Céline, là, on parlait d'à peu près 50 000 $US par mois. Donc, monsieur, madame, tout le monde a de la misère probablement à se payer 1 500-2 000 $ de médicaments par mois.
Je pense qu'ils doivent calculer la moindre décision.
Oui, puis il y a des traitements qui coûtent beaucoup plus cher que... Ça dépend évidemment de la capacité de chacun, si on a des assurances ou pas, etc. Il y en a beaucoup, en fait, qui arrêtent de travailler parce que la maladie est tellement invalidante. Puis d'ailleurs, on le voit dans le documentaire, c'est très, très difficile de passer à travers.
D'ailleurs, moi, j'ai vu le documentaire la semaine dernière. Mm-hmm. Une chose qui m'avait frappé, bon, elle a un médecin sportif, elle est bien entourée,
oui.
Sauf pour ce qui est... Ben, on n'a pas vu, en tout cas, moi, j'ai pas vu dans le documentaire de soutien psychologique.
C'est vrai.
Puis vers la fin, entre autres, elle se fait dire que sa crise est probablement due à une surstimulation de son cerveau quand elle a chanté.
Ouais.
Puis là, elle dit, est-ce que dans le reste de mes jours, je pourrais plus faire la chose que j'aime le plus au cas où j'aurais une crise? Qu'est-ce qui est offert aux gens de cette maladie-là, en particulier votre regroupement, en termes de soutien psychologique?
Bien, en fait, nous, un des, puis on le sous-estime souvent, mais un des services qu'on offre, c'est une ligne d'écoute. Donc, les gens qui nous rejoignent justement sur... puis vous pouvez tous trouver les informations là, sur notre site web. Là. Je répète, là, rqmo.org, c'est très simple. Vous cherchez justement le Centre IRAR. Il y a un numéro sans frais partout au Québec que vous pouvez rejoindre. Et en fait, nos intervenantes sont là pour répondre à vos questions, vous donner l'ensemble des ressources qui sont disponibles et aussi vous écouter. On offre un service de jumelage aussi. Donc, s'il y a des gens qui ont la même maladie, qui sont dans notre base de données, il faut savoir, je l'ai dit tantôt, on existe depuis 14 ans. Notre centre IRAR a répertorié pas moins de 5200 patients à ce jour. Donc, 5200 personnes. Puis là, je vous parlais de 700 000 Québécois. Fait que c'est pour ça qu'on a du chemin à faire. Oui. Mais c'est quand même une bonne base de données pour, justement, connecter les gens. Donc, il y a beaucoup de gens qui nous appellent dire « Moi, je suis atteint de cette maladie-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un de la même maladie qui est dans votre base de données? » Et si oui, on fait les contacts. Et s'ils acceptent les deux de communiquer, bien, on les met ensemble. Donc, ça fait en sorte que les gens puissent s'encourager de diverses régions au Québec, là. Mais point de vue psychosocial ou psychologique, c'est sûr qu'on n'a pas de, t'sais, on n'a pas de psychologue dans l'équipe nécessairement. Je l'ai dit tantôt, on n'est pas des professionnels de la santé. Donc, le but, c'est d'offrir ces ressources-là, puis après ça, d'accompagner les personnes si besoin est, là, au maximum de nos capacités.
Là, je vais vous taquiner, mais techniquement, ça pourrait vouloir dire que Céline Dion ferait partie du groupe de gens qui...
Bien, certainement. Moi, s'il y a quelqu'un qui connaît, en fait, depuis un an et demi, c'est drôle parce que avant même la sortie du documentaire, puis avant même sa sortie, quand elle a eu le diagnostic à la fin de l'année 2022, à mon arrivée au RQMO, j'en parlais déjà. Je parlais déjà de Céline parce qu'on voyait, puis d'ailleurs dans la communauté, ça a été dit, là, les symptômes, puis elle-même le dit dans le documentaire, ça a pris 17 ans avant d'avoir le diagnostic parce que c'est très compliqué, c'est une évaluation clinique de divers symptômes, puis c'est une maladie neurologique auto-immune, donc ça peut être plus difficile à diagnostiquer.
C'est presque un diagnostic par défaut.
Oui, exact.
C'est pas ça.
Exactement.
Je suis obligé de nous ramener sur notre conversation parce que le temps file.
Oui.
Vous avez une activité importante qui s'en vient au mois d'octobre.
Oui, effectivement. En fait, à chaque année, nous, on a deux moments charnières dans l'année. Donc, le premier, c'est au mois de février. Donc, c'est notre mois qu'on appelle le mois du zébrier. Je voulais juste le mentionner comme ça. Donc, le zèbre, qui est l'animal emblématique des maladies rares.
Ouais.
En fait, histoire très courte, un médecin aux États-Unis qui enseignait les cours de clinique à ses étudiants disait toujours, quand vous cherchez un diagnostic, pensez toujours aux chèvres, aux chevaux. aux chevaux.
Oh, oui, oui.
Parce que les chevaux sont beaucoup plus communs quand on entend des bruits de sabots que les zèbres. Donc, les zèbres sont restés un peu à part. Et puis, c'est pour ça qu'on a nommé ça le mois de zébrier. Et c'est un mois dans lequel on fait beaucoup de sensibilisation par rapport aux maladies rares. Le deuxième, c'est notre journée éducative de l'automne.
Oui, c'est ça.
Donc, c'est le samedi 19 octobre prochain. Et justement, la thématique, ça va être sur la transition à l'âge adulte. Pour les personnes qui sont atteintes de maladies rares. Donc, on sait que les enfants ont beaucoup de services, notamment à Sainte-Justine, aux Children et tout ça, mais ces services-là, on en perd beaucoup quand on arrive à l'âge adulte. Donc, c'est une transition qui est assez difficile pour beaucoup de parents. Donc, on va s'y attaquer à l'automne.
Puis pas juste dans les maladies rares.
Pas juste dans les maladies rares, effectivement.
Ça a été une conversation vraiment très intéressante. Je vous présente, vous êtes Jonathan Pratt, vous êtes directeur du regroupement québécois des maladies orphelines.
Oui.
Et on peut vous rejoindre en tapant probablement juste rqmo.org.
Puis si vous tapez RQMO dans Google, vous allez tomber effectivement sur notre site web. Là, on a des commandites et tout ça là, qui s'affichent là, sur Google.
Parfait. Alors, on prend quelques secondes et au retour, on vous parle de cinéma. À tantôt.